14 février, c'est une date qui fait rêver les amoureux. Les Valentins et Valentine s'affichent en rouge noir. Les cadeaux et les petits mots d'amour s'échangent dans la soirée. Les bars, boîtes de nuit et hôtels sont pris d'assaut par des jeunes, des mineurs, et des jeunes et des mineurs en quête des fortes sensations. L'extravagance est de mise. Cependant, les jeunes affichent souvent des comportements sexuels à risque. Quels sont ces comportements? On en parle aujourd'hui avec Benjamin Abouyé-Méré. Bonjour.
Bonjour, Jérémy.
Vous êtes le coordonnateur du forum Jeunes et OMD, Objectif du Millénaire et Développement. Alors, nous parlons des comportements à risque lors de la Saint-Valentin. D'après vos enquêtes, qu'est-ce qui s'est passé bien généralement?
En fait, il se pose d'abord que les comportements sexuels sont en train d'être annulés. Donc, ce qui fait que on a enlevé tout risque dans tout comportement sexuel. Et il y a quelques années auparavant, on pouvait juger que le sexe, c'était carrément sacré, c'était divin. Mais au fil du temps, on comprend qu'on est en train de banaliser la chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui sont vraiment seulement dans la chose, qu'on se demande, mon Dieu, nos parents d'aujourd'hui, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus nos enfants aujourd'hui? Donc, le sexe, c'est vu comme si on prenait des arachides au coin de la rue. Et ça, c'est un problème. Et il se pense que des événements comme celui-ci, comme la Saint-Valentin, comme la Nouvelle An, c'est le moment où on s'exhibe. On se dit, il faut qu'on ressorte notre sexe pur pour faire voir aux autres que nous vivons, que nous existons. Et c'est ça le problème, en fait.
Mmh. Et quels sont les risques que courent les jeunes lorsqu'ils s'adonnent à une sexualité non contrôlée, en quelque sorte?
Une sexualité irresponsable, en fait.
Mmh.
En fait, en plus des infections sexuellement transmissibles que nous connaissons aujourd'hui, il y a le VIH-SIDA. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes, des mineurs de moins de 15 ans qui ont le VIH-SIDA et ils l'ont contracté juste par leur voie sexuelle. Alors vous allez vous rendre compte que les moyens par lesquels on attrape le VIH-SIDA aujourd'hui est à plus de 90% par la voie sexuelle. Et les jeunes aujourd'hui, ils ont des tout risques dans tout ce comportement sexuel. Ce qui fait qu'ils s'y mettent comme s'ils allaient quelque part dans la cuisine pour choper quelque chose. Et ça, c'est un danger.
C'est vraiment un danger. À cause du manque d'information?
Effectivement, il y a ça aussi, le manque d'information. Et bon, il s'est avéré que le gouvernement s'y emploie en mettant en place certains programmes comme le programme national santé de l'adolescent, on a le programme national santé de la reproduction, mais on s'y emploie, il y a le PNMLS qui existe, mais cependant, ça ne suffit pas. Il y a nous comme les communautaires qui avons mis en place des cadres pour permettre aux jeunes de devoir discuter de toutes ces questions, mais c'est pas toujours suffisant.
Mmh.
Donc il faut que tout le monde s'y emploie et que des stratégies soient développées autour de toutes ces questions.
Oui.
Parce que la sexualité, c'est vraiment un problème.
C'est vraiment un problème. Et aujourd'hui, on apprend que même les mineurs s'en mêlent. Les mineurs...
Moins de 10 ans, oui.
Moins de 10 ans.
Il se pose que la sexualité, l'âge sexuel, l'âge médian de la sexualité est en train de baisser carrément. À la Nouvelle An, j'ai eu un promenade devant du boulevard du 30 juin, parce que vous voyez au niveau de la gare centrale, on avait mis un sapin.
Mm-hmm.
Alors ce que j'ai vu là, c'était de moins de 10 ans qui carrément chacun était avec un copain, ils étaient en train de discuter. Quoi? Ça c'est une question à se poser. Quoi? Parce qu'imaginez qu'un adolescent de 15 ans, 14 ans, soit en train de se trimballer avec un copain, ils discutent quoi? Est-ce qu'ils ont un projet de vie? Est-ce qu'ils ont un projet à discuter ensemble? Non, c'est le sexe. C'est la sexualité qui se vit.
Mmh.
Et surtout que l'adolescent est en train de se découvrir parce qu'effectivement, il y a des transformations qui surviennent pendant cette période. On veut vivre, on veut sentir qu'on vit. Et quand on n'a pas vraiment une bonne guidance, quand on n'a pas un bon encadrement, carrément, on dérape. Quoi.
On dérape.
C'est ça.
Voilà, Saint-Valentin, quels sont les comportements à risque? Abbé Mukendi nous appelle des Kananga dans la province du Kasaï occidental. Et Jean-Luc Longouège, il est également à Kananga. Abbé Mukendi, bonjour.
Oui, bonjour pour directement tous les invités qui sont chez la radio Fatima.
Oui, quelle est votre question?
Oui, directement, moi j'appuie pas à ça. Le mot sur la tête, c'est dur quoi, ça c'est un point. La tête qui a fait cette expression, la marche de la tête, je n'étais pas le temps d'arrêter. Moi je demande à notre gouvernement, dans votre droit de la loi, que c'est dur et je sais que les gens qui profitent cette journée pour aller prendre des maladies dans une hôtelle. C'est une erreur qui ne fait pas les chances d'avoir notre pays. C'est comme un enfant, monsieur le journaliste, quoi. Les parents, les enfants, aujourd'hui, qui confessent la tête. Est-ce que ce sont la tête, c'est tout proche? Aujourd'hui, il y a beaucoup de vie qui sera avec beaucoup de maladies. Et je dis de vous remercier.
Merci à Démon Kelly. Jean-Luc Ngouaise de Kananga, bonjour. Jean-Luc, bonjour, on vous écoute.
Et on arrive à cela comment que les jeunes vont oublier que la pandémie du siècle existe. Ils vont s'enivrer avec de la bière. Et ils pensent que pour terminer en beauté cette journée, il faut passer par les relations sexuelles. Et ainsi, ils vont se retrouver être infectés par le VIH/SIDA.
Merci à Jean-Luc Benjamin.
Et effectivement, ils ont raison, parce que le problème est que quand on voit les jeunes en train de se délivrer à ça de manière ouverte, il faut se dire qu'il y a une responsabilité partagée.
La première question d'Adi Moukendi, la Saint-Valentin, vous dites quoi?
En fait, la Saint-Valentin, c'est des célébrations qui datent pas d'hier, en fait. Mm-hmm. Enfin, c'est des célébrations de l'Europe occidentale.
Jean-Luc a dit que c'est une fête de l'Église catholique.
Bon, de l'Église catholique, mais où on s'est livré à rencontrer d'autres personnes ailleurs, parce que c'était vraiment une fête ouverte à tout le monde, où on pouvait se permettre de n'importe quoi. Donc, carrément, c'était quelque chose qui était vraiment ouvert. On savait qu'il y a des ultimés qu'on a à l'extérieur, on a des concubins ou concubines qu'on a en dehors de son foyer, qu'on peut aller rencontrer ces jours-là. Donc, c'était une fête qui était vraiment ouverte à des petites conneries comme ça, des petites sauteries, et qu'on a rendu, on a dû perdurer ça dans le temps et dans l'espace. C'est ce que ça nous parvient aujourd'hui.
Et c'est la question de Jean-Luc. Il dit dans les années 90, ça n'avait pas de l'ampleur comme c'est le cas aujourd'hui.
Oui, effectivement, c'est ça en fait. La situation est qu'au fil des temps, il y a un relâchement des responsabilités des parents. Vous voyez, tout récemment, à la nouvelle an, je vis les parents en train de discuter avec les enfants parce que j'étais visité cette famille et les enfants ont demandé aux parents, c'était à 20h. Maman, on voudrait aller à la gare centrale. On veut aller juste voir comment les certains étaient riches. Sans te rendre compte que là, il peut se passer des choses. Parce que c'était vraiment une soirée ouverte. J'ai donc juste cet exemple-là. Donc, on a senti un tel relâchement parce qu'après que l'enfant soit parti, j'ai dit à la maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Il est 20h. Et imaginez que votre fille vous dise et qu'elle revient dans 10 minutes, mais ce n'est pas 10 minutes, il faut calculer la distance qu'il y a chez vous, là, jusqu'à la gare centrale. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Ça, c'est une question.
C'est une question à Adem qui nous dit hein, pourquoi l'État ne promet pas, il n'y a pas de réglementation, de loi pour protéger les mineurs contre tous les risques. Hein.
Mais ce qui est vrai, il y a tous ces dispositifs-là. Il faut juste les réactualiser. Il faut juste les réactualiser et mettre des dispositions qui soient vraiment assez promptes à devoir réagir dans le temps et dans l'espace. Il y a un relâchement, comme je l'ai dit tantôt, entre les parents et l'autorité parentale et l'autorité gouvernementale. Ce qui fait que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas juste les parents, ce n'est pas juste les gouvernements à travers les institutions comme les écoles. Aujourd'hui, on a pris des bibliothèques pour permettre aux jeunes de devoir penser intellectuel, penser développement, penser autre chose. La pensée des jeunes est descendue trop bas au niveau des sous du ventre. Ce qui fait qu'on pense que sexe. Et ça, c'est un problème. Donc, on n'a pas promis d'autres cultures qui puissent permettre aux jeunes à aller s'équilibrer, à perdre son temps, à devoir faire autre chose qui soit constructif.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les risques en ce jour de la Saint-Valentin?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines organisations, en l'occurrence la mienne, laquelle j'appartiens, qui descendent sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, pour leur parler des méfaits d'une sexualité responsable et quelles sont les conséquences. Bon, effectivement, il y a...
Pouvez-vous rappeler cela, les méfaits et les conséquences?
On a dit
une sexualité irresponsable.
Effectivement, déjà, quand trop jeune, on se lance dans la sexualité, on perd carrément un bon pourcentage de chances à devoir penser positivement par rapport à ses études. Ça, c'est uniquement testé. Parce qu'il suppose que, imaginez qu'il y a un enfant qui s'est déjà délivré dans la sexualité, et qui ne sait que penser ça, carrément, il ne se peut se rendre disponible pour acquérir d'autres connaissances qui puissent l'aider à devoir évoluer dans la vie. Ça, c'est un fait. Vous allez vous rendre compte que, il y a certains milieux où cette sexualité se vit de manière précoce et où on sent carrément qu'il y a un tel relâchement, une telle déperdition au niveau scolaire. Les enfants, soit ils vont à l'école parce que les parents les ont cités d'y aller. Et vous allez vous rendre compte, ces enfants, ces jeunes filles-là, ils s'en vont à l'école avec un pain dans le sac. C'est que quand ils quittent l'école, d'emblée, elle a son pain. On ne sait pas, est-ce que c'est une élève ou c'est quelqu'un d'autre. Donc, il y a déjà un problème mental que ça implique. En plus de ça, il y a l'aspect qui veut qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui. En tant que jeune, on minimise, et quand on les garde trop longtemps dans son corps, ça devient un problème grand. Ce qui implique plus la stérilité, et ça devient trop compliqué quand on va découvrir cette maladie. Parce que quand on est jeune, on néglige trop de problèmes de santé. Ça, c'est des deux. Des trois, on a le VIH-Sida qui est là. La chose est qu'on ne sait plus reconnaître qui a le VIH aujourd'hui. Avec l'avènement des antirétroviraux qui te montrera aujourd'hui, on ne sait plus qui a le VIH. Je dis, tu peux avoir le VIH, moi je peux l'avoir, mais on ne sait pas qui c'est. On a un bon corps, on a un bon visage, et là, on
est mis en portant.
Voilà, c'est ça, oui. On ne sait pas qui a le VIH. C'est du fait qu'on m'a soufflé dans un centre de dépistage, et on a détecté sur 25 personnes qui sont venues se dépister, il y a 17 personnes. À filles, adolescentes qui ont le VIH-Sida dans un centre de dépistage. Vous voyez combien la situation est grave.
Apparemment, il y a que les filles qui sont beaucoup plus concernées, pas les jeunes, non?
Bon, ça, c'était beaucoup plus une enquête qui était menée sur les filles, en fait.
Ok.
Sur les filles. Bon. C'est vrai que c'est répercuté même au niveau des jeunes garçons. Parce que le problème est qu'on minimise la problématique. Donc, il y a moindre perception du danger quand on est jeune. Je dis, c'est vrai qu'on est à l'antenne, mais j'ai vu dans les coulisses des jeunes gens en train de passer des rapports sexuels sans pour autant se demander est-ce que l'autre a un problème de santé. Et d'emblée, ils se sont déshabillés et puis ils sont passés à l'acte. J'ai vu ça, personnellement j'ai vu ça. Alors je me suis dit, imaginez que ce soit ces jeunes qui vivent dans toutes les communes. Et si c'est le cas pour toute la RDC, quand les jeunes ne soient pas percevoir les dangers qu'il y a, le VIH-Sida existe. Il existe.
Donc, on rappelle, vous avez dit, le risque, il y a une capacité à se concentrer sur les maladies, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, quoi d'autre?
Aujourd'hui, le problème, c'est ça implique déjà la question de mœurs. Ok? On se lie trop à la sexualité, et surtout quand on a nos papas qui se déverse trop sur nos soeurs, nos petites soeurs.
Le phénomène, c'est comme moi.
Voilà, c'est ça. On se dit, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est mon copain? Alors, carrément, il y a un problème de mœurs qui prend place.
Oui.
Ce qui fait que vous allez croiser un jeune homme qui parle à une maman sans tenir compte si la pudeur existe. Vous allez rencontrer une jeune fille qui parle à un papa sans tenir compte que ce papa-là, il a l'âge de mon père. Donc, la pudeur n'existe plus. Ça, ce sont des problèmes que nous avons. Et je crois que, en tant qu'entité gouvernementale, entité familiale, entité microcosmique, nous avons vraiment intérêt à devoir avoir une vie sur toutes ces problématiques pour trouver une solution.
Saint-Valentin, quels sont les comportements à risque que vous voulez participer, composer le 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des réfugiés et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un geste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, les coquettes de l'après-midi sur Radio Okapi.
Saint-Valentin, quels sont les comportements à risque? Benjamin Bouyemere, coordonnateur du forum Jeunes et OMD, Objectif du Millénaire et Développement, est notre invité ce matin. Alors, vous avez parlé de ces comportements à risque, une sexualité irresponsable avec le risque de contracter des maladies. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre structure? Vous encadrez les jeunes, qu'est-ce que vous faites pour parler aux jeunes de tous ces risques?
En fait, nous avons focus parce que nous faisons la promotion des objectifs du Millénaire pour le développement qui sont 8, mais nous avons focus sur l'objectif 6 qui est combattre le VIH-SIDA, objectif 5 qui est santé maternelle, améliorer la santé maternelle des sangs et jeunes parce qu'on fait focus sur les jeunes, et puis aussi l'EMD 3 qui est l'égalité des chances entre les filles et les garçons. Par rapport à l'EMD 6, nous avons des actions que nous menons, en tout cas quotidiennement. Comme pour les cas de Saint-Valentin, on s'est concerté avec un bon nombre d'organisations de jeunesse pour pouvoir cadrer carrément certains coins, surtout les campus, les certaines universités, pour voir comment on peut, parce que ce sont des coins où carrément la sexualité se vit de manière proactive, pour voir comment on peut juguler cette question, sensibiliser les jeunes à devoir faire attention à tous ces problèmes.
Mm-hmm.
Et il se pose qu'on a commencé déjà auparavant, parce qu'une semaine avant, on lance la campagne, qui s'étend aujourd'hui à 18h. Donc là, pendant que je vous parle, il y a
vous êtes en pleine campagne, oui. De sensibilisation.
Oui, on a des amis qui sont sur terrain en train de faire la chose, en fait. Et je dis, il ne faut pas oublier, en fait, nous n'oublions pas une chose, c'est que nous avons un problème de pauvreté dans notre pays. Ce qui fait que la question du VIH-SIDA n'est plus une question de santé seulement, mais une question de développement. Et quand on doit s'en prendre à la question du VIH-SIDA, il faut voir la question de manière holistique. Ça veut dire qu'il faut voir la question en tant que paquet. Écoutez, à ces jeunes-là qui vous prenez l'abstinence ou plutôt la sexualité responsable, lui dit que moi, c'est à travers des sexes que j'ai pu gagner un petit rien. Si je peux m'acheter un soutien-gorge ou si je peux m'acheter un basket, c'est grâce à la sexualité. Et vous me dites de couper court à ça, mais qu'est-ce que vous me proposez? Ça, c'est une question à se poser. C'est juste que nous retrouvons souvent vite à un problème où vous parlez à un jeune et il vous regarde. Et est-ce qu'on se convient? Il dit, bon, ça va, j'ai entendu. Mais en soi, il n'a pas entendu parce qu'il sait que vous ne lui proposez pas mieux. Ce qui fait que la question du VIH-SIDA, c'est une question de pauvreté aussi. Comment ça? Dans le sens où ce jeune-là qui a besoin de prendre un pain, il ne sait pas comment il va manger le soir, mais il n'a que ce seul moyen-là pour gagner son pain. Il ne sait pas comment il va obtenir un nouveau habit. C'est là, en fait, que le gouvernement doit voir. J'ai guidé des questions de pauvreté en termes d'acquis, en termes de développement. Donc, il faut voir la chose de manière holistique.
Oui, donc c'est un problème global, c'est lié à la pauvreté.
C'est ça.
Voilà, un auditeur en ligne depuis Lubumbashi, Stéphane Kabangou. Bonjour. Stéphane Kabangou, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, entre-auditeurs.
Bien, nous parlons de la Saint-Valentin. Quels sont les comportements à risque? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je voudrais tout simplement demander à notre invité, je ne sais pas. Par exemple, on écoutait, on entendait faire affaire à la fête de Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Tous les amoureux. Mais vous voyez, quand on a. On est passé à l'heure des autres, c'est une fête, c'est aussi des fêtes des amoureux. Est-ce que
merci Stéphane. Isaac Mbaya, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
On vous écoute.
Oui, tout ce que l'invité a dit, c'est bien. Mais j'ai quand même une question.
Oui.
Quel conseil l'invité peut-il donner aux parents qui laissent leurs enfants ce jour de cette journée? Quand bien même nous savons que certains parents encouragent aussi les jeunes enfants à la prostitution, en leur achetant par exemple les habits noirs et blancs, et noirs
noir.
Pour la journée de la Saint-Valentin, c'est ça aussi. Nous voyons que les parents aussi sont à la base de tout ça, de la prostitution. Merci.
Merci Isaac Mbaya. Benjamin.
En fait, la Saint-Valentin, c'était ouvert pour juste les amoureux en termes de ceux qui ont déjà un acquis en termes de mariage. Ceux qui devraient sortir et faire se payer une petite folie en dehors de leur foyer. Mais cependant, la situation veut que quand l'extérieur voit que c'est bon, on peut se l'approprier. C'est ce qui, au fil des temps, quand l'idée commence, au fil des temps, la répercussion de l'idée devient de plus en plus déguisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'idée de la Saint-Valentin dans le temps, c'est plus l'idée d'aujourd'hui.
Donc là, aujourd'hui, il y a trop de dérapages.
Voilà, il y a trop de dérapages. Ce qui fait que dans le temps, c'était les amoureux. C'était vraiment les amoureux.
Les amoureux, mariés,
voilà.
Fiancés.
Les amoureux, mariés, où on peut, ces jours-là, on s'est dit, on consacre notre journée pour se faire des cadeaux, pour se faire des câlins, et on fait sortir, on fait un stand à Venise, on pourrait parcourir dans des gondoles, en amoureux, et ça c'est si dans le temps. Mais au fil du temps, l'idée en train de déraper, aujourd'hui on trouve tout le monde. On trouve tout le monde dedans.
Même des mineurs.
Même des mineurs. Donc aujourd'hui, la notion de Saint-Valentin, c'est un vrai dérapage de la notion de Saint-Valentin dans le temps que l'Église catholique avait trôné.
Alors, Isaac Mbaya vous dit quel conseil à donner aux parents qui, le fait d'appliquer les vêtements rouge-noir à leurs enfants, d'après lui, c'est une façon d'encourager le mal.
Monsieur Mbaya, c'est vrai que bon, ce qu'il faut dire aux parents, c'est qu'ils ne doivent pas relâcher. C'est vrai que nous vivons dans un contexte qui ne permet pas à nous s'en sortir comme il se doit. Mais ce n'est pas une raison pour autant relâcher les enfants. Vous savez, les enfants, c'est un reflet des parents. Parce qu'on dit, on donne ce qu'on a. Les parents, carrément, on lit à travers leurs enfants ce qu'eux, ils sont. Ce qui voudrait dire que quand on voit les enfants en train de parcourir, qui est là, en train de faire n'importe quoi comme connerie, c'est les parents qu'on voit. Souvent, on dit, vos parents ne vous ont pas éduqués du tout. Et vous voyez maintenant où est-ce qu'on va. En tout cas, je crois que les parents n'ont pas le droit de dire qu'on est relâché par le gouvernement, on n'est pas mieux payé, on n'a pas le moyen de voir subvenir aux besoins de nos enfants. Mais non, c'est pas normal. Avec peu, avec rien, on peut faire quelque chose. Mais c'est juste qu'il faut se consacrer à l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose de grand qu'on puisse léguer à nos enfants. Bon, je ne suis pas encore parent, effectivement. Mais j'ai dit que. Mais du moins, c'est quelque chose, c'est un acquis, c'est l'acquis le meilleur qu'on peut léguer aux enfants. Quand. Un jour, le parent se dira, en tout cas, c'est moi qui ai enfanté, c'est moi qui ai élevé cet enfant. C'est une fierté. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les parents ont perdu ces défis-là.
Vous avez dit à cause de la pauvreté.
En tout cas, on
ne peut pas, crise généralisée,
on peut pas se dire que c'est à cause de la pauvreté qu'il y a ces relâchements. En tout cas, ils n'ont pas raison de dire ça. Les parents n'ont pas raison de dire ça. Parce que, imaginez qu'un enfant connaisse une telle déperdition, et un jour, on va demander aux parents, pourquoi avez-vous fait ça? Est-ce qu'il va répondre que c'était la pauvreté? Non, il ne va pas. Il va manquer de réponse. À mon sens, je crois qu'il y a.
Alors, quelle est la part de l'État dans tout ça?
La part de l'État, c'est que, vous savez, certains partenaires au développement ont eu l'idée de mettre en place des clubs, des cadres pour recueillir les jeunes, des centres d'écoute, des centres de jeunes.
Mm-hmm.
Mais il suppose que, il y a un certain temps, ces clubs ou plutôt ces centres ont fonctionné comme il se doit. Parce que. Le concept était que si l'enfant n'est pas à la maison, s'il n'est pas à l'école, mais on sait là où on peut le retrouver. C'est dans un centre de jeunes, où soit il est en train de regarder un documentaire, il est en train de lire un livre constructif, en fait, il est dans une activité saine qui lui permet de développer ses atouts. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Les quelques centres de jeunes que nous avions sont en train de mourir, n'existent plus, ne sont plus subventionnés.
Et donc les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes.
Abandonnés à eux-mêmes. Heureusement que nous sommes, d'ici mercredi, il y a la politique nationale de la jeunesse qui sera présentée aux partenaires par le ministre de la jeunesse, c'est mercredi, ce sera au stade des martyrs. Ces politiques carrément ressortent toute la problématique de la jeunesse dans tous les secteurs, dans tous les axes donnés.
Alors, pour terminer, Benjamin, un message à tous les jeunes qui vous écoutent en ce moment. Vous allez le faire en français et en lingala aussi.
Oui, c'est vrai que mon lingala est un peu ce qu'il est. En fait, à nos amis jeunes, je me dirais que ceci. Nous avons besoin de vous pour que ce pays soit ce qu'il doit être demain. Parce que c'est à travers nos jeunes que nous allons assurer le rayonnement de ce pays. Mais cependant, si on se délivre déjà dans des choses qui ne sont pas constructives aujourd'hui, demain nous sommes foutus. Donc, ce qui fait que ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, demain, nous ne saurons pas changer les choses. Parce qu'il n'y aura même pas demain d'œuvre pour changer les choses. Il n'y aura même pas de conscience pour changer les choses. Donc, nous avons vraiment intérêt à mieux penser. La petite chose qu'on a toujours tendance à croire que ça n'a aucune répercussion sur la vie de l'ensemble du pays, c'est ça en fait qui consiste. Parce que c'est des tas de petites choses qui nous constituent l'ensemble d'une chose. Donc déjà, si un élément est en train de se déconstruire, carrément c'est tout l'ensemble qui se déconstruit. Donc on a besoin de tout jeune congolais pour un avenir meilleur pour le pays.
En lingala.
Ah, c'est pas facile, hein. Mon lingala est vraiment ce qu'il est. En fait, nous avons eu ce rendez-vous-là, d'agène.
Bilingue,
voilà. C'est Mboga. RDC en a besoin de tout. Il faut tout réfléchir à l'ampon à la beaucoup de bisous et au bon lobby. Parce que, imagine le lot, va décider le lobby. tout ça considérer le lobe agien du lingue, mais l'obi parmi biso que vous avez ministre, que vous avez chef d'état, que vous avez mandataire public, mais déjà ce qui m'a ramené au bout, on va nous raisonner au télélo, l'obi est au comment place on a une rara, poto. Donc le problème c'est que il faut tout bien encore raisonner, m'a ramené au télélo.
Mais si le lobe pour la collation vente, on veut ça va en mieux.
Le lobe, sûrement, je ne vais pas prendre malheur, mais sûrement il y aura des gens qui vont tomber sur le coup. Alors, si tout fait gaffe. Vous avez l'attention, donc vous allez engueuler. Mais mieux sur vous ça.
Bien, vous allez engueuler, faites attention. Merci Benjamin Bouillemeré, coordonnateur du forum Jeunes et Objectifs du Millénaire et Développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci Yéli, à la prochaine.